Rendez-vous politique.
Et à 8h13, vous êtes avec Stéphane Beaumont, Isabelle.
Et oui, il est dans le studio, arrivé presque en courant, essoufflé. Bonjour Stéphane Beaumont.
Bonjour, bonjour. Il faut courir un peu le matin surtout, période de crise.
Et en période de crise. Alors, après une longue, trop longue période de silence, le président de la République a annoncé qu'il prendrait la parole ce soir. Que faut-il en attendre? On voit ça avec vous, Stéphane Beaumont, ce matin. Alors, avec une première question d'abord, pourquoi est-ce qu'il s'est fait tant attendre, le président?
Mais je crois que le silence est grand en matière de politique, comme en matière de vie. Seul le silence permet de proposer ensuite les bonnes solutions. Et le général de Gaulle, dans la crise de mai 68, s'était imposé un silence qu'il n'a rompu qu'après être revenu de Baden-Baden. Donc le silence n'est pas une mauvaise manière de faire de la politique, à condition qu'à un moment donné il soit brisé au moment opportun pour qu'il paraisse comme un silence constructif et constructeur.
Donc silence nécessaire, dites-vous, en référence notamment à cet épisode de Baden-Baden du général de Gaulle. Stéphane Beaumont, qu'est-ce qu'il pourrait bien, il en faut de l'imagination effectivement, et du silence et du recueillement pour le président, qu'est-ce qu'il pourrait bien annoncer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il annonce pour calmer la colère, et Dieu sait si elle est grande, des gilets jaunes?
Ben, si Emmanuel Macron prend la parole, ce sera pour mettre du baume sur les plaies et apporter des réponses, affirme l'entourage du président. Enfin, quelle que soit l'issue de la journée de samedi, dont on a vu qu'elle avait renversé un peu les rôles, le chef de l'État fera des annonces parmi lesquelles il montrera comment il utilise son énergie. C'est par le contenu, les annonces à venir du président devront montrer qu'il remet au cœur de sa politique le centre de gravité social-démocrate qui est celui de sa majorité, du mouvement et de ses électeurs. Cela doit rappeler à Emmanuel Macron que, comme à la majorité parlementaire qui le soutient, d'où ils tiraient leur légitimité, et c'est une bonne chose que de revenir un peu aux sources. Pour faire bien les choses, il faudrait que Emmanuel Macron tienne compte à la fois des hypothèses des uns et des autres. Pour Thomas Piketty, l'économiste, le pouvoir en place a commis une série d'erreurs factuelles, historiques et politiques. Il faut les réparer. Pour Rosan Vallon, les gilets jaunes ne disent pas seulement former une classe exploitée, mais être des catégories méprisées. Il faut revenir sur ce mépris. Pour Isabelle Coutant, on ne pourra pas résoudre la crise économique, tout comme la crise migratoire, sans lutter contre les inégalités. Vous voyez que les inégalités reviennent. C'est un souci de justice et de démontrer comment on va arriver à cette justice que demande sourdement ou même
très fort,
explicitement. Les gilets jaunes.
Stéphane, vous parlez de baume. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'on n'a pas besoin, les gilets jaunes n'ont pas besoin d'autre chose? Sont évoqués notamment le retour de l'ISF, la revalorisation du SMIC. Est-ce que ce sont des voies possibles selon vous?
Mais il y a le caractère possible, idéalement, utopiquement, de toutes les voies proposées. Et quand on voit les tracts des gilets jaunes, on comprend qu'il y a des choses irréalisables. Et en même temps, les gilets jaunes ne sont pas prêts à entendre ce genre d'arguments, d'irréalisation. Mais ils sont là pour faire en sorte que l'utopie de certaines de leurs revendications, et parmi celles-ci, il y a la justice totale, la justice absolue, que cette utopie soit réalisée. Ils demandent donc l'impossible au président de la République, qui a comme problème de devoir d'abord reconstituer une majorité homogène et combative et ne pas se laisser entraîner par 4 samedis, je dis 4 et je mets entre parenthèses 5 points d'interrogation pour essayer de résoudre une crise sociale inédite que n'a connue aucun des présidents de la Ve République.
Est-ce que la dissolution pourrait faire partie des annonces de ce soir? Après tout, Stéphane Beaumont, la cohabitation qui procéderait de cette dissolution, est-ce que ce n'est pas le « en même temps » poussé à son paroxysme?
Oui, j'aime bien votre comparaison. Effectivement, mais les dissolutions sous la Ve République, c'est soit des dissolutions d'adéquation des majorités, comme les dissolutions mitterrandiennes. Mais le général de Gaulle, lorsqu'il dissout en 62 et lorsqu'il dissout en 68, en 62, c'est pour répondre à une motion de censure qui a renversé le gouvernement Pompidou. Et en 68, c'est pour répondre à la crise de mai-juin 68. Donc la dissolution dont vous parlez, elle ressemblerait à celle de mai-juin 68. Mais ça me paraît pas être la solution idéale. Dans l'état où se trouve la majorité parlementaire qui soutient Macron, et quand vous avez une majorité parlementaire d'une telle ampleur, vous n'êtes pas prêt à vous faire harakiri. Parce que se faire harakiri après avoir vécu quatre samedis comme ceux que nous avons vécu, sans parler des samedis à venir, parce que le calendrier continue.
Oui, ah oui.
Je fais partie de ceux qui ne croient pas à la dissolution.
Vous croyez pas au bénéfice de la dissolution, vous ne croyez pas qu'il peut l'annoncer, les deux du coup.
Je ne crois pas qu'il peut l'annoncer, je crois qu'il peut plutôt annoncer la reprise de sa réforme constitutionnelle, au prix peut-être, mais là je n'engage bien évidemment que moi, de cette fameuse Sixième République pour laquelle je milite et qui mélange harmonieusement la République parlementaire et la République présidentielle.
Eh ben, nous verrons ça ce soir, c'est à 20h à écouter sur France 2. Un grand merci Stéphane Beaumont et
merci
je vous dis
vous.
À la semaine prochaine pour d'autres événements à commenter, probablement nombreux. Merci à vous Stéphane.